Bonsoir. Nous vous proposons ce jour la troisième émission d'une série consacrée à une évocation de l'auteur Elsa Triolet. Nous avons entrepris cette série d'émissions vendémiaire qui sera réalisée avec Maria Berlioz et Jean Knauf, tous deux membres de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, sigle Salaette. Cette émission couvrira la période allant de 1917 à 1921, période durant laquelle Elsa Triolet rencontrera d'abord et épousera ensuite André Triolet dans les conditions que vont nous conter nos invités. En ouverture de cette troisième émission, vous avez entendu un extrait du spectacle Les Mariés de la Tour Eiffel, dont la première présentation fut justement donnée le 18 juin 1921, donc une musique totalement contemporaine de cette époque. Il s'agit d'un spectacle assez singulier à l'initiative de Cocteau qui écrivit le texte, les musiques étant l'œuvre de 6 jeunes musiciens réunis pour la circonstance et à qui on donna le nom, passé à l'histoire, de groupe des 6, même si, hormis d'appartenir à cette même génération de nouveaux jeunes, comme les appelait Satie, il y avait peu de liens esthétiques entre eux. Ils furent donc embarqués tous les 6 dans cette aventure un peu dadaïste par Cocteau. Il s'agissait de Georges Auric, Louis Duret, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulain, Germaine Taillefer. Le morceau que vous venez d'entendre est une composition de Francis Poulain, la baigneuse de Trouville, interprétée par l'Orchestre national de la RTF sous la direction de Darius Milhaud. Au fil de cette émission, nous entendrez quelques autres illustrations musicales. À partir de là, je donne la parole à mes invités qui vont vous parler d'Elsa Triolet.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Lors de notre dernière émission, nous avons terminé par cette relation extrêmement compliquée entre Elsa et Mayakovsky. Donc, il s'est terminé par une rupture, hein, puisque Mayakovsky est tombé amoureux fou de Lily. Lily, la sœur d'Elsa. Alors, aujourd'hui, on va vous conter une étrange histoire qui est cette rencontre assez improbable entre Elsa et un personnage qui s'appelle André Triolet. Alors, comment expliquer justement cette union donc qui semblait de deux êtres qui semblaient s'opposer en pas mal de points. Alors on a deux réponses d'après les biographies qui ont été écrites sur Elsa Triolet. Il semblerait que donc la rencontre a lieu en 1917, donc l'année même de la Révolution. Il semblerait que Elsa, qui a donc 21 ans, Elsa est quelqu'un qui est très mal dans sa peau à l'époque. Sa correspondance avec Lily en témoigne d'ailleurs. Et il semblerait que cette rencontre, suivie donc d'un mariage qui sera très bref, elle correspond à une double fuite. La première, c'est que Elsa veut absolument s'éloigner de la relation que sa sœur Lily a avec Mayakovsky. C'est une relation passionnée, tempétueuse, pleine de rebondissements, de ruptures, de réconciliations, etc. Et puis ensuite, et là sans doute que ça nous interroge plus vu le destin, l'engagement politique qui sera celui d'Elsa, c'est que sans doute Elsa qui veut fuir sans doute les événements et notamment la Révolution. Alors je vais vous lire ce qu'elle écrit. Leningrad crevait de faim et de choléra. Les gens mouraient par paquets tous les jours. Ils tombaient dans la rue, dans les tramways. Des montagnes de fruits pourrissaient. Les manger, c'était attraper le choléra. Et à partir de là, on peut se poser une question à laquelle nous ne donnerons d'ailleurs pas de réponse parce qu'on connaît pas de réponse. C'est dans toute l'œuvre d'Elsa, qui, encore une fois, je le répète, a été un écrivain engagé aux côtés d'Aragon et engagé dans la résistance aux côtés du mouvement issu des forces communistes. Comment interpréter l'indifférence totale d'Elsa face à ces événements de 1917 qui sont tout de même des événements qui, quelle que soit d'ailleurs l'issue de cette révolution, des événements qui ont complètement bouleversé le monde et qui ont essayé vraiment de transformer cet espoir fou d'une société qui aurait été une société de justice, de bonheur, etc. Et pas une seule ligne donc d'Elsa Triolet dans son œuvre concernant les événements de 1917. Donc une double fuite par rapport à ce couple qui est celui de sa sœur avec Mayakovsky, et par ailleurs sans doute une fuite devant cette misère qui est celle que dans les premiers mois de la Révolution, puisqu'encore une fois on est en 1917, que traverse l'Union soviétique. Alors, pas de réponse à ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer André Triolet.
Alors, André Triolet, on va vous en dire deux mots. Alors, c'est un monsieur ou un jeune homme qui est militaire. Il est attaché militaire de la France en Russie, donc pendant la guerre de 14-18. Et la France avait envoyé une mission à Moscou afin que le gouvernement ne quitte pas l'alliance contre l'Allemagne. André Triolet est fils de porcelainier de Limoges. C'est quelqu'un qui vit, on va dire, avec un héritage. Mais il voulait fuir lui aussi ses parents, essentiellement son père, et il s'était engagé pendant 7 ans. Donc, lorsqu'il rencontre Elsa, c'est une jeune fille qu'il a courtisée, parce qu'André Triolet est un garçon, on va dire peut-être un dandy de notre époque. Il aime bien s'habiller, il aime, on va dire encore maintenant, draguer les femmes. Et Elsa avait vu chez lui quelqu'un qui parlait français d'abord, et c'est une langue qu'elle connaît. Mais ce qu'elle aimait aussi, je crois, parce que souvent on s'est dit, mais pourquoi Elsa Triolet s'est mariée avec André, alors que aussi bien ses amis que sa famille mais il n'y avait pas assez d'hommes en Russie, donc on l'a taquiné avec ça, et puis surtout des hommes lettrés, comme elle aimait. Et au fond, là c'est personnel ce que je vous dis, j'ai l'impression que, bien sûr, comme disait Jean, elle a fui un petit peu toute cette épidémie, tout ce désastre, on va dire, tout ce qui se passait pendant la Révolution, la mort. Et puis, elle a fui, je pense aussi, ces histoires de cœur qu'il y avait avec Mayakovsky. Et je crois qu'avec André Triolet, ils se sont séduits. Oh, certes, par la suite, on verra que ce n'était pas la passion, mais je crois qu'elle allait vivre quelque chose qui allait appartenir à elle et seulement à elle seule. Je crois que c'est pour ça que cette histoire a dû démarrer. Et puis, ça allait bien entre eux pendant un moment, puisque André Triolet l'a attendu qu'elle finisse ses études et qu'elle soit diplômée. Oui. D'architecture. Voilà. Et André Triolet, au fond, aura été quand même quelqu'un qui aura compté, je le répète encore, certainement pas comme une passion, mais quand même au moins en amitié par la suite, puisque André Triolet a toujours été là lorsque Elsa avait des problèmes de finances, ou tout simplement être là en ami jusqu'à la fin de leur vie. Et d'ailleurs, Jean, tu me disais qu'il était mort en 1971, oui, André Triolet.
Il y a une coïncidence amusante, enfin bon, on ne va pas en tirer de choses irrationnelles. Il est mort le 24 décembre 1971, et Aragon est mort également le 24 décembre 1982. Donc voilà. Il faudrait peut-être préciser aussi qu'il avait 6 ans de plus.
De plus, oui.
Il est né en 1890.
Oui, oui, voilà. Tout à fait. Et puis, il aimait les chevaux. Enfin bon, il avait, on en parlera plus tard, puisqu'il retournera ensuite en France, mais on expliquera encore un petit peu comment était le personnage. Pendant cette période, je crois qu'il fallait que l'on dise, avant de commencer un petit peu leur devenir, après leur mariage, pendant ce temps, pendant qu'ils se fréquentaient tous les deux, Elsa a eu un avortement.
Oui. Ouais.
Et
là,
donc, oui.
Oui. Donc, tu disais, oui. Elsa termine ses études d'architecture.
Oui.
Et donc, concrètement, pour bien situer, elle s'embarque le 4 juillet 1918 avec sa mère.
Oui.
Donc, elle quitte l'URSS. Hein. Il y a aussi.
Oui.
Ça, c'est aussi une chose qui pose un peu question. Elle quitte son pays, dont elle aura la nostalgie toute sa vie. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que dans sa voix, elle gardera cet accent qu'elle cultivera peut-être aussi, sans doute. Et donc, elles s'en vont via Stockholm, la Norvège, pour Londres.
Oui.
Et la mère d'Elsa et de Lily, donc, va trouver un travail à Londres. Et elles vont séjourner là-bas. Et le mariage aura lieu. Alors, il y a aussi une incertitude, mais enfin, il aurait lieu dans le 6e arrondissement à Paris, selon certaines sources, le 20 août 1919.
Oui.
Voilà, donc il se marie deux ans après.
Oui.
Alors, l'avortement.
Oui.
Alors, l'avortement, alors, je voudrais dire que grâce à Jean-Pierre, j'ai eu un contact avec Huguette Bouchardeau, qui a écrit une biographie d'Elsa. Alors, peut-être que pour les plus jeunes de nos auditeurs, je voudrais rappeler que Huguette Bouchardeau a été secrétaire d'État à l'environnement dans le gouvernement Mauroy, donc qui est le premier gouvernement nommé par François Mitterrand. Elle a été secrétaire d'État à l'environnement donc entre mars 83 et juillet 84. Ensuite, elle est devenue ministre de l'environnement. Et là, c'était dans le gouvernement Fabius, donc qui a tenu jusqu'au 20 mars 86. Elle était alors dans un parti qui était connu, un peu oublié aujourd'hui, c'était le PSU, Parti Socialiste Unifié. Et ensuite, elle est devenue députée du Doubs, puis maire d'Aigues-Vives, dans le Gard. Ensuite, elle s'est retirée de la politique et elle est devenue éditrice. Hein, d'ailleurs, une de nos amies, Monique Jouvency, qui a fait un spectacle sur Aragon avec le comte, a été édité chez Huguette Bouchardeau, ses éditions HB. Et notamment, elle a écrit de nombreuses biographies, et notamment sur les femmes, Georges Sand, Simone Veil, Nathalie Sarraute, Simone Signoret, Simone de Beauvoir, et bien entendu,
Elsa Triolet.
Elsa Triolet, c'est un ouvrage très intéressant. Alors, cette histoire d'avortement, parce que on consulte trois biographies sur Elsa, celle de Lily Marcoux, qui est sans doute celle qui est la plus officielle, si je peux dire, celle du Guette Bouchardeau, et puis celle de Dominique de Santi, bon, qui est sans doute enfin, il y a des pointes assez acerbes sur Elsa, notamment sur son caractère. Et c'est Huguette Bouchardeau qui évoque le plus précisément cette histoire d'avortement. Alors, ce qu'elle dit, elle a retrouvé, elle s'en explique dans l'extrait du message que je vais vous lire, elle a retrouvé un fragment. Alors, ce qu'elle me dit, c'est qu'il s'agissait d'une toute petite lettre, presque un billet, qui était dans le fonds Aragon-Elsa Triolet, qui à l'époque se trouvait à la BN rue, qui était rue de Richelieu, et qui maintenant doit être au moulin à Saint-Arnoult en Yvelines. Et elle avait trouvé ce message assez laconique et en même temps assez explicite, s'agissant de l'avortement qu'aurait subi Elsa, enfin dans les conditions de l'époque, hein, tout cela pour une minute de plaisir, et parce que nous sommes deux fous. Donc, ça semblerait indiquer que elle s'est trouvée enceinte alors qu'elle vivait avec André et que ils ont décidé d'avorter. Alors on parle de ça pas pour faire de l'anecdote ni du voyeurisme, mais ça a une certaine importance parce que il va y avoir un drame dans la vie d'Elsa qui est celui
de ne pas avoir d'enfant
et ça va être un thème assez récurrent, ce thème de la maternité. Ça va être un thème assez récurrent dans toute son œuvre. Alors, Huguette Bouchardeau, dans ce courriel donc qu'elle nous a envoyé, elle nous dit « Mais je pense que si je me fie aujourd'hui à ma mémoire, je risque d'ajouter le doute au doute. Peut-être un membre de votre équipe, donc elle fait référence à la Société des Amis Aragon, pourrait-il retrouver ce dossier? Je ne verrai pas plus d'inconvénients pour ma part à ce que vous infirmiez ou confirmiez la version que j'en donne. » Voilà. Et elle termine, parce qu'on peut lui dédier cette émission là de ce soir. « Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre travail et je vous félicite de faire progresser la connaissance d'une œuvre qui mérite mieux, à mon avis, que le statut d'appendice à celle de son compagnon, si génial fut-il. » Et ça, c'est tout à fait vrai quand on voit, par exemple, aujourd'hui, chez les éditeurs, chez Gallimard en particulier, la difficulté à faire rééditer les textes d'Elsa, notamment Gallimard refuse obstinément d'éditer dans la collection Quarto, qui est une collection un peu semblable à la Pléiade, mais avec des tarifs, une collection bon marché. Et il y a un blocage terrible en ce qui concerne la réédition des œuvres d'Elsa. Donc voilà, il y a cet épisode auquel Huguette Bouchardeau fait référence. Et il y a également un texte où elle en parle dans Camouflage, qui est son deuxième roman après À Tahiti, dont on va parler.
Et j'ajouterais à ce propos que l'on avait déjà inscrit cet épisode de la vie d'Elsa Triolet dans l'exposition Elsa la Rebelle, qui avait eu lieu donc il y a quelques années. Et donc Jean Albertini, qui était fin connaisseur de Aragon et Elsa, donc en parlait déjà à l'époque. Voilà.
Donc là, il y a un chantier ouvert pour la recherche, pour essayer de préciser ça.
Un extrait du quadrille de Germaine Taillefer et nous retrouvons la vie d'Elsa Triolet avec Maria Berlioz et Jean Knopf.
Alors, après leur mariage, en octobre 1919, c'est le départ pour Tahiti via New York et San Francisco et arrivé à Papeete en décembre. Et là, bien sûr, 1919, oui. Et là, Elsa Triolet nous racontera plus tard. Nous fera dans le livre Tahiti la description de ces hommes et ces femmes qu'elle a connus là-bas et puis la vie qu'elle menait. Et je crois que Jean va commencer à nous faire la lecture d'un premier extrait.
Voilà, alors auparavant je voudrais préciser donc une chose, c'est que ce roman C'est important parce qu'Elsa écrit dans deux langues et que À Tahiti, donc qui est un roman qui va qui est achevé en 1924 et qui est déjà publié dans une revue qui s'appelle Le Contemporain Russe, sous le patronage de Gorky. Faut quand même bien que nos auditeurs réalisent que bon, d'abord il y a une très grande influence de la littérature aujourd'hui, qui est, on pourrait dire, un média essentiel. Et le pape des lettres russes, qui en plus est quelqu'un qui a épousé la cause révolutionnaire, c'est Maxime Gorky, auteur de romans et également auteur de pièces de théâtre. Les Bas-fonds, par exemple, qui est une pièce qu'on joue encore aujourd'hui, c'est une pièce de Maxime Gorky. Et le roman d'Elsa va être publié à Leningrad en 1925. Et alors, c'est le seul roman qui sera dans ce cas-là. En 1964, on en reparlera quand on en sera là, en 1964, dans les œuvres romanesques croisées, Elsa Triolet traduit elle-même en français son roman À Tahiti. Et alors, il y a une chose, il y a une histoire qui est quand même intéressante, c'est que ce roman est dédié à son mari André, qui, ne parlant pas russe et refusant obstinément d'apprendre le russe, n'a jamais lu le roman qui lui était dédié. Alors, par contre, je ne sais pas si en 1964, puisqu'il était toujours vivant, il l'a lu. Mais toujours est-il qu'à l'époque où Elsa l'a écrit, il ne l'a pas lu. Enfin, ceci dit, c'était en 1924 et ils étaient séparés depuis 1921. Mais enfin, bref, voilà. Et alors, autre paradoxe, c'est que en exergue du premier chapitre de À Tahiti, on a un poème de Roman Jakobson. Maria, tout à l'heure, vous a parlé de la fuite la fuite d'Elsa, un peu incompréhensible, notamment de Lily et de Mayakovsky, enfin surtout de Mayakovsky d'ailleurs. Mais il y avait le grand linguiste du XXe siècle, avec Benveniste, il y a deux grands linguistes, et Saussure, surtout Saussure qui est l'inventeur de la linguistique, Saussure et Jakobson. Jakobson est amoureux fou d'Elsa, et Lily pousse Elsa à épouser Jakobson, qui est un intellectuel extrêmement brillant, sauf que Elsa trouve que Jakobson est beaucoup trop proche, notamment de Mayakovsky et de tous ces gens qu'elle veut un peu fuir, quoi, finalement, tout ce milieu qu'elle veut un peu fuir. Mais en exergue de À Tahiti, on trouve ce poème, je crois que je vous l'avais lu à la fin de la première émission, je vais vous le relire quand même, c'est un quatrain, c'est pas long. « Je ne pourrai pas te le taire, que je t'aime et t'aimerai. Si tu t'en vas sur cette terre, jamais je ne m'en consolerai. » Voilà. Et c'est ce qui est en exergue de À Tahiti, qui est par ailleurs dédié à André Triolet. Alors ce roman, bon, qu'on peut considérer sans doute que s'il nous restait que À Tahiti, on serait pas là ce soir pour parler d'Elsa Triolet. Mais c'est un roman où on va trouver en amorce un certain nombre de des scènes savoureuses comme celle que je vais vous lire. Ce sont des petits chapitres. Alors où on a des personnages qui sont vraiment très très savoureux, puis également dans d'autres endroits des descriptions, tout un art qu'on va retrouver en permanence dans le style d'Elsa. Alors, ce que je voudrais vous lire, là, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. Moi, c'est un de ceux que je préfère dans le roman d'Elsa. Ils arrivent donc à Papeete, et avant de trouver une maison, ils séjournent dans un hôtel d'un dénommé Johnny Goodin. Voilà. Alors voilà ce que dit Elsa, ce qu'écrit Elsa. Les chambres de l'hôtel de Johnny Goodin, cet être de sexe mal défini, ne sont pas faites pour un long séjour. Un lit, un lavabo, une seule chaise, quelques crochets au mur, derrière un rideau pour y suspendre les vêtements. Voilà pour l'ameublement. Quant à la terrasse, c'est un lieu de passage. Il n'y a pas là non plus où s'asseoir, où s'adosser. Nos affaires restent depuis un mois dans les valises non défaites, avec les cancrelats qui s'y sont mis dès le lendemain de notre arrivée. Nous cherchions avec énergie une maison, mais l'affaire s'était avérée difficile. Il y avait peu de maisons vides, et puis à cette époque, toutes les distances me paraissaient énormes, si bien que les recherches étaient pour moi un vrai martyr. Cela se passait juste pendant la saison des pluies. Quand pour un court instant, la pluie s'arrêtait, l'air restait trempé d'évaporation. Une chaleur humide, mouillée, qui ne cédait ni le jour ni la nuit. Il me semblait que j'avais le corps gonflé d'eau et rien que pour traverser la rue, j'usais mon énergie tout entière. J'essayais de sortir le moins possible et restais de préférence chez moi à parler avec Johnny Goodin. Johnny avait été à deux reprises en Amérique. Il pouvait s'entretenir de n'importe quoi et s'exprimait dans un langage choisi. Il était toujours gai et ne travaillait jamais. Dès 7 heures du matin, il pinçait les cordes de sa guitare et presque sans arrêt, on entendait dans toute la maison les deux mêmes chansons. Et quand arrivait le paquebot mensuel, alors pour les 2 jours que celui-ci restait en rade, Johnny mettait un chapeau, se chaussait et se transformait en un vrai gentleman. À la cuisine qui se trouvait dans le jardin et où j'allais passer un moment avec lui, il m'offrait une sorte de liqueur d'orange, puis venait dans ma chambre admirer mes robes et chapeaux. « C'est ravissant, disait-il, de sa voix haute et chantante, remuant son épaule ronde, ravissant. » Et il se déplaçait avec la démarche d'un mannequin dans les salons de haute couture. Un jour, Johnny avait organisé pour nous un repas de plats indigènes. Dès le matin, toute la maison était sans dessus dessous. Johnny préparait le repas lui-même avec l'aide de 2 Tahitiennes. Personne ne touchait de la journée à notre chambre. La cuisine se fait par terre, sur des pierres brûlantes. Chaque plat est enveloppé séparément dans des feuilles de bananier, l'ensemble encore une fois recouvert de plusieurs couches de feuilles de bananier. Par là-dessus, un tas de chiffons humides et pour faire tenir le tout, des pierres sur le sommet. Au bout de quelques heures, on ouvre le four, on défait les feuilles et la nourriture est mise dans les assiettes. On m'a dit de manger avec les doigts, mais je ne l'ai pas voulu. Installé sur la terrasse étroite, Johnny attentif et prévenant, André et moi-même, nous avons longuement mangé du poisson cru au lait de coco, du petit cochon au lait de coco, de grosses crevettes au lait de coco, des bananes très cuites collantes au lait de coco. Le poisson cru était servi comme hors d'œuvre. Il a goût de hareng mariné. Le petit cochon coupé fin est mélangé aux feuilles de taro préparées comme des épinards. Les bananes sont aussi coupées en petits morceaux et cuites au four avec du sucre et de l'amidon, se transforment en pudding. Le pain est remplacé par les fruits de l'arbre à pain et par des bananes feuilles. Les fruits de l'arbre à pain ont l'aspect de grosses oranges vertes et le goût d'un pain lourd sans sel. Ils sont cuits au four, comme les bananes, ne se mangent pas crus. Nous buvions du vin blanc coupé d'eau, avec du citron et du sucre, en y ajoutant du rhum et de la glace. À la fin du repas, comme nous avions déjà du mal à respirer, sont arrivés 2 Maoris. Qui se sont mis à papoter dans leur langue tout en buvant avec nous de la liqueur. Puis d'autres gens se sont joints à nous, des clients de l'hôtel ou simplement des passants. Nous nous sommes transportés à l'intérieur de la maison dans la pièce d'où partait l'escalier menant à l'étage et où il y avait beaucoup de portes et des coffres en bois de cèdre sculptés.
Johnny, assis sur l'un des coffres, pinçait les cordes de sa guitare avec un petit rire aimable et distrait. L'une des femmes s'était nouée une écharpe autour des fesses et se déhanchait en chantant. L'autre avait fait comme elle. Adossé au mur, un Américain roux et édenté les regardait faire dans un état de joie délirante. L'animation montait. Plusieurs personnes s'étaient installées sur les marches de l'escalier. Une femme à moitié saoule, couchée par terre à nos pieds, dos au coffre sur lequel nous étions assis, penchait sa tête sur les genoux d'André. Il la repoussait prudemment sur le couvercle du coffre. Johnny, sans le moindre intérêt pour ce qui se passait autour, continuait tranquillement à pincer la guitare et à me faire la conversation. Je tenais André par la manche, la femme à nos pieds le poussait vers moi et disait avec humeur « Va, va chez ta bien-aimée !»« Homme blanc, comme tu es beau, comme je voudrais connaître le bonheur dans tes bras !» chantait une autre femme, celle-là jeune et belle, continuant à se déhancher et à exciter l'Américain roux, qui finit par lui sauter dessus, cris, rires, jurons. Je suis allé me coucher, la tête lourde et un goût de poisson cru au lait de coco dans la bouche. À côté, le bruit a continué longuement. Ils vont finir par trouver une maison que Kelsa nous décrit au chapitre 5 de À Tahiti. Alors je vous lis un petit extrait de ce chapitre. La maison a été arrangée par un riche Américain de passage. Il y a peu de meubles. Ils sont grands, confortables, lourds, stables, solides. Sur la véranda, entre les portes, des couchettes basses et larges, couvertes de nattes. Au mur, des étoffes de Java, un personnage blanc sur un fond bleu passé et calme. Le côté gauche de la véranda sert de cabinet de travail. Le bureau est un clavecin transformé en bois foncé, verni à gros pieds. Dans l'angle, au-dessous d'une grande ombrelle est suspendu un hamac, des chaises en toile pliante. Le côté droit est la salle à manger. Une table de vannerie ronde à dessus de terre, les pieds trempants dans des bols pleins d'eau et de pétrole pour empêcher les fourmis d'y monter. Alors, suit toute une description assez précise. Et alors, le chapitre se termine. André a fourré ses affaires en tas dans l'armoire, a accroché au mur des bribes des morts, des courroies en cuir, dans un coin, une selle, sur la table des gants de cuir, sentant la sueur du cheval, hein. On sait que le cheval est sa passion, une badine, des cigarettes, ici s'était installée une odeur de cuir et de tabac, la pièce n'ayant jour que par les portes n'était pas très claire. Le côté droit de la maison restait vide, dans la grande pièce du devant, trônait solitaire, un gramophone, les deux pièces de par derrière vides avec nos valises dedans, nous les avions fermées tout à fait. Le plancher peint était partout lisse et brillant. Dans la salle de bain, avec un plancher à jour, pour que l'eau répandue tombe directement sur le sol, il y a une petite baignoire émaillée toute neuve et une douche. Dans un cagibi, une grande armoire à glace.
Alors, dans cette maison, André et Elsa avaient quand même une vie confortable, puisque Elsa raconte, ils ont eu le cuisinier à Pau et Vainé, la femme de chambre. Alors, elle nous raconte tout ça. J'avais un cuisinier chinois à Pau et une femme de chambre indigène, Vainé, ce qui veut dire femme en maori. Les Chinois commandent leurs femmes qui obéissent sans discussion et ils ne peuvent comprendre pourquoi, chez les Blancs, cela se passe autrement. Le domestique chinois de Pauline ne balaye jamais de son côté à elle, sous le grand lit où elle dort avec son mari, ni est balayée fort soigneusement qu'une moitié jusqu'au milieu. Voilà à quel point il méprise les femmes. Et un autre Chinois, un cuisinier, s'est jeté sur une femme en brandissant un couteau parce qu'elle avait osé lui faire une observation. Apaou était petit et flanqué, avec un visage chinois. Exact et précis au point que nous ne vivions plus d'après la pendule, mais d'après lui. C'était un homme sobre et honnête. Et je ne sais trop pourquoi, après être resté chez nous quelques 6 mois, il a ouvert une petite boutique à lui. André n'arrêtait pas de lui faire des cadeaux. Il enlevait une chose qu'il portait pour la lui donner. Ce n'était pas toujours d'une grande utilité pour le Chinois. Mais Apaou acceptait tout avec le même calme. Cravate, costume fait chez un tailleur chinois et un peu ample pour André, des crayons Kohinoor pour lesquels André nourrissait une passion, les pyjamas les plus tendres, un chapeau de feutre pour l'hiver, etc. Apaou me parlait en anglais et commençait chaque phrase par un « supposing ». Supposing que nous allons faire pour le déjeuner des crabes farcis. Supposing, la glace a fondu et le beurre a coulé. Supposing, ce matin au marché, il n'y avait pas de crevettes. Supposing, c'est l'affaire de Vainé de laver la vaisselle, pas la mienne. La femme de chambre était une indigène qui, au dîner de Johnny Goodin, disait à André « Va, va ». Chez ta bien-aimée. Elle ne ressemblait en rien à Apaou. Elle ne venait jamais à l'heure. Elle était rarement sobre et s'appropriait volontiers les objets qui traînaient. C'était une femme plus très jeune, pas du tout sérieuse, moins encore qu'il n'est de mise dans cette île où en général c'est de mise. Elle était supposée habiter la petite maison dans la cour mais n'y couchait que rarement. Son tout jeune Tané, c'est-à-dire son mari, était natif non pas de cette île où les indigènes sont paisibles et doux, mais de l'archipel voisin. Quand il était saoul, et il l'était souvent, il la battait furieusement. Et la nuit hurlait dans la cour des chansons françaises obscènes. Il les avait apprises et autre chose avec dans l'armée, à la guerre. Dans l'île, il ne manque pas d'hommes comme lui. Quand j'ai remarqué qu'en 2 semaines, nous avions mangé 25 livres de sucre, j'ai posé des questions. Apaou, détournant la tête et les yeux pleins de larmes, dit « Supposing la Vainé distribue du sucre à tous ses fétis, c'est-à-dire ses parents ?» Vainé louchait de mon côté dans l'attente d'une scène. Mais la scène ne vint pas. C'était à moi la faute. J'aurais dû mettre le sucre sous clé. Souvent, elle n'arrivait que pour le déjeuner ou ne venait pas du tout. À droite, débrouillarde et intelligente, elle savait faire tout ce qu'elle voulait, mais ne voulait que rarement. Quand j'essayais de lui expliquer quelque chose, elle ne comprenait aussi que ce qu'elle voulait bien comprendre, alors que, ivre, elle parlait fort bien l'anglais. Mais, d'habitude, elle ne faisait que me regarder avec un sourire gêné, relevait et descendait ses sourcils ronds et larges en signe d'assentiment. et seulement alors faisait « eh », ce qui veut dire « oui ». Elle élevait un tout petit garçon noirot qui s'amusait dans la cour, piaillait et se jetait dans les jambes de tout le monde. Il était impossible de se fâcher contre lui.
Oui, dans l'extrait que Mariette vient de nous lire avec le portrait donc des deux employés de maison, là on peut voir l'art du portrait d'Elsa, et ces deux personnages qui sont quand même assez savoureux, hein, avec ce chinois là, supposing, et puis et puis également Vainé. Alors on a également sélectionné, c'est plus loin dans le livre, d'autres portraits de personnages. Alors il y en a quatre, hein. Le russe, parce qu'il y a un russe qui se promène là au milieu. Le père Rougier, hein, qui est un curé défroqué, ou enfin bon, un ancien curé. Un personnage donc qui s'appelle Nelly. Et puis la domestique qui succédera à Vainé, parce que Vainé est vraiment impossible, hein, entre ses souleries et puis sa vie complètement dissolue. Et donc, ce sera le personnage de Tahuti. Alors, on va commencer par le russe.
Le russe,
c'est
oui.
C'est toi qui lis ?
Oui,
je sais plus.
Je vais le lire, oui. Alors, dans cette maison, dont la cour nous était commune, vivait un russe, tombé je ne sais comment dans cette île, avec une femme américaine et une petite fille adoptive prénommée Cookie. Il avait quitté la Russie depuis une vingtaine d'années et semblait être resté tout ce temps-là égal à lui-même. Il essayait fougueusement d'enfoncer des portes depuis longtemps ouvertes, aimait parler de la maternité, de l'art en tant que moyen d'action sur les masses, de l'abstinence, de la fidélité et du retour à la nature. En conséquence, il mangeait beaucoup de légumes crus, s'extasiait devant le tableau « La vie est partout », était fidèle à sa femme aux cheveux blancs, portait des chemises sans manches et marchait, de préférence pieds nus. Son rêve était de retourner en Russie. Il avait foi dans ce qui s'y passait, sûr d'y être indispensable. Il disait « Je vais aller en Russie. Je parlerai avec Lénine et Trotsky. Et s'ils sont d'accord avec mes points de vue, nous travaillerons ensemble. » Sa femme aux cheveux blancs avait un physique plaisant et digne. Dieu ne lui avait pas donné les enfants qu'elle souhaitait tant, et ils avaient fini par adopter la petite Cookie.
Alors, un autre portrait, celui du père Rougier. Un homme entièrement habillé de noir, si grand et si lourd qu'il débordait de la Ford comme un adulte d'une voiture d'enfant. Devant lui flottait une longue barbe rouquine. Qui d'autre est-ce que cela pouvait être le père Rougier? Je ne sais pourquoi il était défroqué. Le père Rougier lui-même oublie ce fait et continue à se nommer père. Dans cette île lointaine, il est chez lui, il a acquis une maison en pierre, une nièce et pas mal de biens. Le père Rougier possède une île, quelque part loin, très loin dans l'océan. Personne ne sait comment elle est tombée entre ses mains, personne n'y habite, et les bateaux n'y accostent pas. Le père Rougier avait décidé de fonder un orphelinat. Il a ramassé beaucoup d'argent pour cette pieuse entreprise, et maintenant il a à sa disposition une main-d'œuvre gratuite pour ses plantations. D'ailleurs, il a écrit sur ce sujet un livre, « The Christmas Island ».
Nelly était née aux Indes et toute sa vie de 18 ans, elle n'avait jamais passé plus d'un an au même endroit. Elle a vécu dans les hôtels de Chine, des États-Unis, de l'Espagne, sur les transatlantiques, pour échouer une deuxième fois déjà dans cette île. Lorsque je l'ai rencontrée, elle était en train de se métamorphoser et de fillette précoce, exhibant un grand nœud dans les cheveux, de longues jambes sous une jupe courte et un corsage trop serré, sortait une vraie demoiselle. Elle commençait à ramasser ses cheveux en chignon et à couvrir ses jambes. Elle se laissait embrasser et se serrait contre n'importe qui, sans distinction. Si elle se trouvait en tête-à-tête avec un homme, et si cet homme ne l'embrassait pas, elle s'en étonnait et jugeait que c'était un fainéant. Son empressement à dire oui n'avait pas de borne. Elle était impudique à faire peur. André lui faisait la cour. Et dans une conversation à cœur ouvert, elle lui avait un jour expliqué que son idéal était de voyager tout le temps, d'avoir beaucoup de robes et 5 ou 6 amoureux. Plusieurs hommes s'occupaient de Nelly. Le plus fidèle et le plus amoureux était l'Anglais de Moréa. Il lui apprenait à monter à cheval et ils se baignaient ensemble au clair de lune. Parfois, Nelly réussissait à tromper la surveillance de son père et elle passait une partie de la nuit dans une pirogue en mer ou en auto ou je ne sais où, ni avec qui. En général, les femmes l'intimidaient. Elle ne les aimait guère, mais elle faisait une exception pour moi. Venait me voir avant l'heure du thé, quand il n'y avait encore personne, me demandait si elle devait se marier avec l'Anglais de Moréa, se faisait caressante et me demandait encore et encore « Vous m'aimez ?» Il m'avait fallu me séparer de Vainé. Elle venait chaque jour un peu plus tard, et un peu plus ivre. Enfin, j'ai réussi à trouver une remplaçante pour ma Vainée. Elle s'appelait Tahuti et elle avait 18 ans. D'un type qui n'était pas de l'île, grande, large d'épaules, les seins placés haut et se distinguait des Tahitiens par son visage rond et plein, ses petits yeux noirs, ses lèvres charnues, ses petites nattes courtes frisées. Elle était gaie, gentille, sans ombre de méchanceté, ne se promenait jamais qu'avec des amis et on ne lui connaissait pas de tannée. Comme toutes les femmes de l'île, elle était très pudique, mais se déshabillait la porte grande ouverte et tous ceux qui passaient dans la rue pouvaient admirer son corps nu et sombre.
Voilà, donc ils vont quitter
Tahiti
à la fin de l'année 1920. Donc ils ont passé une année et donc ils vont entrer en France Et tout d'abord à Limoges. À Limoges, donc, dans la famille de, d'André.
Oui.
Et donc, on est à l'automne, on est à l'automne 1920. Et là, Elsa va découvrir une vie de province dans laquelle elle va... là, on va avoir une, un contact avec la province assez traditionnel, comme les romanciers du 19e aimaient la décrire, ennuyeuse, mesquine. Et d'ailleurs, il y a une phrase où Elsa dit des habitants de Limoges, « Je les trouvais aussi insolites que les nègres de Tahiti. »
Ce qui est pas ça très, veut dire.
Ce qui n'est pas très gentil
non.
Pour les gens de Limoges. Ceci dit, précisons que André, qui finalement... à bourlinguer parce qu'il est allé en Russie. Bon, c'est l'éducation des jeunes hommes de bonne famille, bon, qui ont besoin quand même de sortir du milieu pour bon ben faire d'autres rencontres, etc. Donc la Russie, Tahiti, c'est quand même l'exotisme et qui revient à Limoges, qui est prêt à prendre la, la direction de l'entreprise. Donc ils sont porcelainiers, hein, comme Maria l'a dit tout à l'heure. Et puis il a cette passion des chevaux, mais Elsa fait pression et veut s'installer à Paris où il s'installe. Alors à Paris, Elsa va avoir une première, je pense que on peut appeler ça une dépression.
Dépression, oui, oui.
C'est-à-dire que elle va avoir ce, ce sentiment qui est très important chez elle, de se sentir une étrangère. Elle est une étrangère, hein, de fait, hein, puisqu'elle est, comme tout le monde s'en souvient à travers les émissions de radio ou de télévision qui lui ont été consacrées bien plus tard, et elle a un fort accent, personne ne peut se tromper sur son origine russe, mais... elle va avoir ce sentiment très très fort d'être une étrangère et on peut comprendre dans la mesure où sa vie en Russie, elle est quand même extrêmement entourée. Hein. Elle fait en plus partie d'un public de lettrés, de gens qui la protègent, un milieu quand même très soudé, des artistes d'avant-garde. Et là, elle se trouve complètement isolée et donc elle va faire une, elle va tomber malade, hein, une maladie. Donc nerveuse, et elle va faire un premier séjour à Hyères en février 1921. Bon, faut dire également que le couple est loin d'être un couple épanoui. Hein. On a parlé des chevaux, mais André est également un amateur de belles femmes et c'est quelqu'un qui, Maria a parlé de dandy tout à l'heure, bon, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle couramment bon, un coureur de jupons. Quoi. Et entre eux, bon, le couple bat de l'aile. Et d'ailleurs, Elsa écrira plus tard, parce qu'elle a été marquée par cette union avec André Triolet. Il y a un roman qu'elle écrira plus tard... son premier roman en français, d'ailleurs, qui s'appelle « Bonsoir Thérèse », où il y a des... c'est un ensemble de nouvelles, et justement, où elle transposera ce séjour dans leur premier appartement parisien, en des termes tout de même qui sont assez durs, notamment, je pense, à une scène entre eux, qui évoque justement un couple, ils ne se parlent pas, ils ne se disent rien, ils n'ont rien à se dire, etc. C'est ce qui est encore pire que qu'une dispute. Et plus tard, elle évoquera donc également son séjour à Hyères, également son séjour à Nice, puisqu'elle va séjourner dans deux établissements, à Hyères et à Nice. Alors voilà ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est dans les œuvres romanesques croisées, hein, puisque cette entreprise, on en parlera, des œuvres romanesques croisées, œuvres d'Elsa et œuvres d'Aragon. Il s'agit de romans, donc, hein, non pas de... les poésies d'Aragon seront publiées ensuite par ailleurs. Il s'agit donc de leur roman et à chaque volume est précédé d'une préface. Et Elsa s'exprime beaucoup. Alors voilà ce qu'elle dit sur cette période. C'est dans le premier volume. On m'a envoyé dans le Midi. J'ai terriblement envie de guérir, mais aussi ici, il fait si froid et j'ai le cafard. Pour être indépendant, il faut de l'énergie et l'énergie exige une bonne santé et une certaine assurance. Et je n'ai ni santé ni assurance. Comme si en moi tout était brûlé. C'est l'ennui d'André qui m'a vaincu. C'est fort.
C'est fort, oui.
Et puis je ne sais pourquoi, j'ai perdu la mémoire. Amnésie cérébrale, ou autre chose. Je n'ai envie de rien faire de toute façon. J'oublie tout. Tout ce sur quoi je m'applique. Et il me semble pourtant que Romic, on revient à Roman Jakobson, et il me semble pourtant que Romic aurait pu me rendre à la vie. Voilà, ça c'est tout de même assez fort. Et de retour à Paris, donc on sort pas de la dépression comme ça. Elle retrouve donc cet état de langueur. Elle écrit d'ailleurs en 1921, 8 septembre 21, une lettre à Lily où justement elle se plaint de cet ennui profond. Elle pense à ses anciens amis, Volodia, Genia également, toujours Roma, donc Roman Jakobson, qui est vraiment le...
Qui lui, en ce moment-là, était en exil à Prague,
voilà, Roman Jakobson. Voilà, Jakobson oui. était en exil à Prague. Et leur séparation a lieu en 1921.
Oui.
La séparation avec André.
Et pour ce soir, on va s'arrêter là. Oui. La prochaine fois, ce sera quoi le programme ?
Alors, la prochaine fois, donc, après sa séparation d'avec André, Elsa va vivre une période extrêmement fructueuse sur le plan intellectuel à Berlin, où se trouvent la plupart des intellectuels russes, parce que la situation est quand même très difficile en Union soviétique. Elle va rencontrer un certain Shklovsky, qui est amoureux d'elle, avec qui elle participera à un ouvrage, un roman par lettre. Puis elle va retrouver Jakobson, Mayakovsky, Gorky. Enfin, elle va retrouver tout son monde.
Tout un programme. Bien, je remercie Jean Knopf et Maria Berlioz. On se quitte avec un dernier court extrait des Mariés de la Tour Eiffel. Et donc, rendez-vous pour une future prochaine émission sur la vie de Elsa Triolet. Bonsoir.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Thank you.